Bonjour ou bonsoir, bienvenue dans Inventaire à l'après-vert, un podcast qui vous parlera de personnes, de leur histoire, des objets qui les racontent, qui vous parlera également de l'art, des arts, de l'éducation et de la pédagogie. Bonne écoute! Chères toutes et chers tous, je vous espère en bonne forme en ce mardi 6 février. Alors le soleil commence à décliner, enfin le soleil, on n'en a pas eu beaucoup, mais voilà, il y a déjà moins de lumière sur le plateau, mais on sent malgré tout que les jours rallongent. Et ça, on le constate au chant des oiseaux qui se font de plus en plus présents, notamment le matin, vers 7h30. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler du dernier opus d'une trilogie que le photographe animalier Jean-Michel Bertrand a consacré aux loups. Alors avant de se passionner pour les loups, Jean-Michel Bertrand, qui est un homme très discret, c'est assez difficile de trouver des informations sur lui, eh bien a passé aussi beaucoup de temps à étudier les aigles, notamment en Mongolie, et il en avait fait, il me semble, son premier film. Donc moi, aujourd'hui, je voudrais vous parler du dernier volet de cette trilogie qui s'appelle « Vivre avec les loups », dont j'ai également fait une chronique, on peut au choix ou écouter cet épisode ou alors lire la chronique sur le blog hors cadre. Donc en fait, je vais vous lire ce texte. Donc en fait, c'est dans les Hautes-Alpes, dans une vallée tenue secrète entre Champsaur-sur-Bonnet et Val-Gaudemar, je ne sais pas si je prononce correctement, que Jean-Michel Bertrand s'est mis à suivre la trace des loups. En fait, les loups sont revenus assez naturellement en France. On date leur retour en 1992. Et il ne faut surtout pas dire réintroduction, qui donnerait à penser que c'est volontairement que l'homme a réintroduit le loup dans nos massifs. En fait, il est vraiment revenu tout seul. Et c'est dans le Mercantour qu'on a observé le premier couple. Donc c'était un loup et une louve qui venaient d'Italie. Alors, les animaux ne connaissent pas les frontières. La seule chose qui les intéresse, ce sont les grands espaces. Ils cherchent à trouver de quoi se nourrir et puis aussi des lieux pour pouvoir élever, le moment venu, tranquillement leur louveteau. Alors, en France, des archives attestent que le loup était présent dans toutes les campagnes françaises. Il y en avait vraiment, il était présent sur tout le territoire. Et les dommages causés aux animaux d'élevage ont fait de manière assez naturelle de lui un ennemi public. En fait, il était la bête à abattre, comme l'avait été l'ours au Moyen-Âge, et on accordait des primes à ceux qui les tuaient. En 1937, on a pu penser que la population a été éradiquée. Alors, c'est peut-être pas exactement 1937, mais enfin, bon, c'est pas très important. Et dans l'Hexagone, le loup avait d'abord été victime d'une loi qui a été adoptée le 3 août 1882, et qui avait pour but de faire disparaître totalement l'espèce. À la fin du 19e siècle, le désenclavement des campagnes, l'exploitation forestière plus poussée et le développement des voies de communication ont contribué à la disparition d'un animal qui peut parcourir en une seule journée 100 km. Alors d'ailleurs, c'est une chose que montre le réalisateur dans son film. On voit des images des montagnes complètement dénudées, c'est absolument horrible, et d'ailleurs il explique que c'est à cause de cette déforestation massive que les hommes ont été contraints à l'exil, ont dû partir pour trouver du travail ailleurs. Et c'est comme ça aussi que progressivement les animaux sauvages ont quitté nos massifs parce qu'ils n'avaient absolument plus de quoi se nourrir, et donc il a fallu qu'ils retrouvent d'autres espaces, ils sont repartis du côté de l'Italie, après la Slovénie, la Roumanie, où il y en a énormément. Donc en fait, il y a des chiffres qui sont assez éloquents. En 1823, il y avait 2131 loups qui avaient été tués en France. C'était 1300 loups en 1883, 50 en 2010, et 2 ou 3 avaient été capturés dans les années 1930. Donc on voit vraiment comment l'homme s'est organisé pour faire disparaître cet animal. Dans la vallée des loups, le réalisateur se mettait en quête de loups. Alors on savait qu'ils étaient revenus, mais on ne les avait pas vus, il voulait les voir de lui-même. Alors le réalisateur, ce qu'il a fait, c'est qu'il utilisait des caméras attachées au tronc des arbres et dissimulées sous un habit d'écorce et de mousse. Pendant 3 ans, en fait, il avait suivi les loups par tous les temps, en toute saison. Alors les loups sont des animaux discrets, donc il lui a fallu beaucoup de patience pour identifier une meute Et puis, progressivement, en fait, aller jusqu'à se faire accepter de cette meute. En fait, la meute le tolérait. Ils pouvaient rester à bonne distance et observer les loups ensemble. Dans Marche avec les loups, donc ça c'est le deuxième opus, Jean-Michel Bertrand faisait le récit eh bien, du grand mystère de la disparition des loups. Il cherchait à comprendre comment les jeunes loups quittent la meute et partent à la conquête de nouveaux territoires. Et ce faisant, enfin pour ce faire, il avait suivi eh bien, ces jeunes loups dans leur pérégrination. Donc ça l'avait emmené dans des endroits assez éloignés hein, de sa vallée secrète, puisque dans mon souvenir, ça fait maintenant plusieurs années que j'ai vu ce documentaire, je pense qu'il allait jusque dans le Jura, on voyait des loups qui traversaient des autoroutes. Dans Vivre avec les loups, Jean-Michel Bertrand, qui a été menacé de mort par ceux qui s'opposent à la protection des loups en France, en fait part du principe que maintenant que le loup s'est réinstallé sur le territoire, on ne pourra plus l'éradiquer. Donc finalement, plutôt que de vouloir à nouveau le faire disparaître, il vaut mieux réfléchir à la manière dont on peut vivre en bonne intelligence avec le loup. Alors quand il ne sillonne pas l'hexagone pour rencontrer son public, alors à la fois eh bien des adultes, mais aussi beaucoup de scolaires qui posent plein de questions, ou quand il ne passe pas les frontières pour comprendre comment nos voisins vivent avec le loup, eh bien le réalisateur s'installe dans sa cabane, adossée à une paroi rocheuse. Il nous emmène, pas seulement sur la piste des loups, mais il nous invite à des promenades magnifiques, sous les arbres en automne, dans la neige en hiver. Avec lui, nous respirons et cueillons les fleurs de génépi qu'il fera macérer dans de l'alcool et qu'il a plaisir à offrir autour de lui. Nous découvrons sous les feuilles de superbes cèpes qu'il va couper en lamelles, mettre à sécher sur un fil dans sa cabane. Nous ramassons des framboises et des myrtilles. Nous réalisons une soupe avec des orties fraîches sans nous faire mal, puisqu'il y a une manière hein, de ramasser les orties pour qu'elle ne soit pas urticante, nous assistons à de merveilleux couchers de soleil et entendons gronder l'orage sans crainte puisque nous sommes à l'abri dans la cabane. Jean-Michel Bertrand ne nous emmène pas seulement sur la trace des loups, mais aussi sur celle des cerfs, des biches, des renards, des sangliers, des lapins et même des blaireaux. Ce qui est très agréable en fait quand on regarde ce documentaire, c'est qu'il n'est jamais dans le jugement. En revanche, il est toujours dans l'écoute et dans la pédagogie. Il comprend parfaitement que les éleveurs sont en colère quand ils retrouvent leurs animaux massacrés. Donc ils passent pas mal de temps avec des bergers qui vivent au plus près des troupeaux et qui apprennent à cohabiter avec les loups. En France, on compte désormais 7000 chiens de protection pour 1000 loups. Alors cet été, nous avons marché dans le Mercantour, c'était absolument magnifique. Et un matin, nous avons rencontré un berger avec son troupeau et ses trois chiens. En fait, le berger s'arrêtait boire une tasse de café dans le refuge où nous avions passé la nuit. Il avait deux bordeurs et un patou, et son patou portait autour du cou un collier, un gros collier avec des pics acérés. Et en fait, on pouvait voir sur le flanc gauche hein, les traces encore récentes eh bien, d'une blessure parce que le patou eh bien, avait défendu le troupeau contre l'attaque d'un loup. Alors, dans ce documentaire, eh bien, on apprend que l'État soutient financièrement les éleveurs pour qu'ils électrifient les clôtures ou nourrissent les chiens. Alors, parmi les nombreux bergers que Jean-Michel Bertrand rencontre, il y en a un plein d'esprit qui s'amuse que les croquettes soient fabriquées en Bulgarie. Et c'est ce même berger qui dira que, en fait, s'il est très malheureux quand un loup s'en prend à ses bêtes, il ne l'est pas moins quand il songe à la manière dont sont tués tant d'animaux dans des abattoirs-usines. Alors, dans le documentaire, on voit que Jean-Michel Bertrand se rend dans les Abruzzes, donc dans le parc national des Abruzzes qui n'est pas très loin de Rome, et aussi dans le Valais. Alors, dans les Abruzzes, la population, elle n'a jamais cherché à éradiquer les loups et les ours. Les animaux sauvages sont protégés, ils font vraiment partie de la culture. Les éleveurs, en fait, vivent avec les loups depuis toujours. Donc, la nuit, les bergers surveillent les troupeaux avec les chiens, et quand ils voient des loups approcher, ils leur font peur, avec des lumières ou avec leur voix. Comme ce sont des animaux très peureux, eh bien, ils détalent. Le tourisme fait vivre les 12 communes du parc national. Il y a beaucoup de visiteurs qui viennent hein, pour avoir la chance d'observer des animaux sauvages. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on comprend aussi que le loup, parce qu'il est un grand prédateur au sommet de la chaîne alimentaire, joue aussi un rôle essentiel dans l'équilibre de la faune. Dans les Abruzzes, les autorités du parc ont même réintroduit des cerfs. Dans les années 70, pour que le loup chasse plutôt dans les forêts, plus dans les forêts que dans les pâturages. Alors dans nos forêts françaises qui sont exposées à une surdensité de sangliers et d'ondulés sauvages qui peuvent causer des dommages aux jeunes pousses, le loup pourrait aussi justement contribuer à la régulation de ces animaux. Alors dans le Valais, les éleveurs s'organisent, comme à peu près tout le monde, comme tous les voisins européens, mais ils ont récemment été autorisés à former eux-mêmes à la protection des troupeaux d'autres chiens que les races emblématiques, c'est-à-dire les bergers des Pyrénées, qu'on appelle Patou, et les bergers de Marais-Mabruse. Donc en fait, maintenant, il y a des Saint-Bernard, des Kangals, des Transmontanos ou bergers des Carpates sont désormais admis. Ce sont des chiens, en fait, qui n'ont pas été exclusivement pensés en termes de protection des moutons ou des chèvres. Ils sont socialisés, comme s'ils étaient des animaux de compagnie. Ils ne constituent donc pas une menace pour les promeneurs. En effet, depuis plusieurs années, dans les massifs alpins et pyrénéens, des randonneurs ont été blessés par des chiens de protection. Alors, c'est vrai que souvent, ce qui se passe, c'est que les marcheurs manquent de vigilance, ne font pas attention. Pourtant, on explique bien aux randonneurs qu'il faut qu'ils fassent attention aux lieux de pâturage, que ces lieux de pâturage sont gardés par des chiens qui sont vraiment là pour monter la garde, que ce ne sont pas des grosses peluches. Donc, il faut faire attention. D'ailleurs, quand on avait vu ce patou dans ce refuge, il avait l'air parfaitement inoffensif. Mais bon, j'avais préféré ne pas le caresser. Donc en fait, ce documentaire est vraiment, vraiment une réussite. Les paysages sont magnifiques, comme les scènes avec les animaux. Les personnes que le réalisateur a rencontrées sont elles aussi toutes très attachantes et intéressantes. Et il y a vraiment une réflexion. C'est ce que dit en fait le réalisateur, c'est que quand on parle du loup, très vite on dévie sur d'autres sujets. On parle de société de consommation, on parle d'abattage des animaux. Donc en fait, c'est un sujet, mais qui en appelle d'autres. Donc en fait, il s'inscrit dans une réflexion qui est beaucoup plus large et qui, bien sûr, touche en premier lieu la biodiversité, puisqu'on a besoin des loups comme on a besoin de renards, puisque le renard nous protège activement contre la maladie de Lyme qui s'est complètement répandue sur tout le territoire français. Donc j'espère que si vous voyez ce documentaire, il vous plaira autant qu'à nous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vais vous souhaiter maintenant une belle fin de journée ou une belle soirée si vous m'écoutez un petit peu plus tard. Et je vous dis très certainement à la semaine prochaine. À très bientôt.